Eh bien, chers amis, toujours sur ce thème de la nécessité et de l'urgence d'un retour au vrai prophétisme spirituel en Église, personnellement, et je vous en fais la confidence, je rêve jour et nuit de découvrir en quelque part, en Église, un premier évêque qui serait prêt à consacrer 3 ou 5 ans, à vraiment prendre au sérieux le prophétisme spirituel et à tout tenter par une expérience pilote privilégiée pour le réhabiliter et le revaloriser en Église. Donc, de se donner la peine d'en cerner les coordonnées majeures et de lui offrir à la grandeur de son diocèse, un vaste terrain de culture à la disposition de l'Esprit du Seigneur. Pas une mise en structure, mais une mise en culture. Je prophétise à cet évêque que je serais des plus heureux de connaître s'il daignait s'identifier, des grâces extraordinaires, sans précédent ni comparaison pour lui et l'essor de tout son diocèse. Une telle expérience pilote donnerait un nouveau feu sacré à l'Église sur ce point. Ce vécu bien vécu susciterait beaucoup d'intérêt et pourrait avantageusement devenir le thème de synode fort enrichissant, d'abord au plan diocésain, puis au plan universel. Bien humblement, modestement, j'assure cet évêque pionnier et ceux qui oseront suivre son exemple de notre fervente prière, de notre collaboration aux besoins et de partage fraternel sur notre propre vécu, bien vécu à ce propos. Ce faisant, un tel évêque, par son plongeon sans précédent dans la foi, vraiment une première mondiale ecclésiale, pourrait montrer expérimentalement à toute l'Église, et en particulier aux successeurs des apôtres et aux prophètes de notre temps, comment faire revivre et consolider le couple apôtre-prophète, fondation indispensable à l'épanouissement de toute communauté chrétienne, celle qui a pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même, pour citer à nouveau saint Paul, Éphésiens 2, 19, 22. À la lumière d'un tel vécu, j'en suis sûr, les successeurs des apôtres et les prophètes en Église d'aujourd'hui pourront cesser enfin de se heurter ou de se meurtrir inutilement et par voie de conséquence de sevrer la communauté ecclésiale de son dû. Qui sait? Alors, si dans le prochain code de droit canonique, on n'aura pas alors l'audace d'établir certaines normes ou certaines suggestions de nature non seulement à éviter le divorce ou la séparation ou les mésententes dans le couple apôtre-prophète, mais encore davantage à susciter une intense collaboration où la diversité et l'unité s'embrassent. Jésus disait « Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. » Matthieu 10, 41. Ça veut dire quoi au juste? Une récompense de prophète. À la vérité, les commentateurs bibliques ne se sont pas épuisés à nous dire ce que signifie une récompense de prophète. Personnellement, je n'ai rien lu ou entendu d'éclairant à ce sujet. Mais il me monte dans le cœur à l'instant d'y donner un sens et à la fois d'en faire une prophétie encourageante pour cet évêque pionnier qui osera prendre le prophétisme au sérieux et oser le réhabiliter en son milieu. Pour moi, une récompense de prophète, en plus d'accueillir celui qui envoie le prophète. Car Jésus a dit, « Qui vous accueille, m'accueille moi-même, et celui qui m'a envoyé. » En plus d'accueillir celui qui envoie le prophète, et c'est déjà toute une récompense, ce pourrait fort bien être, en bonus, la grâce privilégiée de décoder beaucoup plus aisément et rapidement le prophétisme et les prophètes. Un nouveau charisme. Au point tel d'en devenir un candidat idéal pour joindre leur rang, si l'Esprit le désire ainsi. Qui sait? Mes chers amis, si notre Église ne cesse pas son attitude d'apartheid face au vrai de vrai prophétisme spirituel, si elle ne repatrie pas le prophétisme spirituel à part entière comme un élément majeur indispensable à la promotion et au renouveau constant et ininterrompu de l'Église, notre Église va continuer à vivre dans le clair-obscur actuel. Elle va continuer à chercher le prophétisme purement intellectuel, sociologique, rationnel, naturel et humain, et y trouver son éclairage. Notre Église ira de plus en plus vers un certain obscurantisme ou obscurantisme certain sur le plan de la foi, de l'espérance et de la charité, comme on en trouve d'ailleurs des signes avant-coureurs évidents. L'Église ne sera guère plus qu'une savante et pieuse académie humaine, donnant au monde l'éclairage purement humain et incomplet de ces élites de penseurs et de gens d'action. Guère plus, ni guère mieux. Le prophétisme spirituel authentique a toujours pour grand objectif de rappeler le peuple, l'Église, à la loi fondamentale, celle de l'amour de Dieu et du prochain. Le prophète n'est donc pas un hors-la-loi, au sens qu'il veut tout agiter et troubler. Bien au contraire, le Seigneur s'en sert pour rétablir ce qui, consciemment ou non, a été ou est perdu de vue. Pour ce faire, le prophète doit dénoncer et reprocher, exhorter et déranger, et cela crée l'impression qu'il ne veut pas se soumettre à ce qui se pense, se dit ou se fait. Il donne l'impression souvent d'être hors la loi, d'être mal commode. En effet, il réagit contre une foule de règlements humains, d'encadrements, de façons de procéder, qui sont de main d'homme, animés de bonnes intentions et souvent sanctionnés par l'autorité. Mais, qui lui semble, sous la mouvance de l'esprit, sous le regard de Dieu qui lui en donne la lumière et même les preuves, d'où sa grande assurance qui souvent en déconcerte plusieurs, qui lui semble, ses règlements, encadrements et procédés, bloquer à toute fin pratique en Église le libre cours de trois grands fleuves, entre autres celui de la charité, de la vérité et de la liberté, absolument indispensable à la vie d'Église. Le Seigneur peut même aller jusqu'à demander à l'un de ses prophètes non seulement de dénoncer, de protester, mais aussi de résister, comme par exemple au cléricalisme, à l'esprit sanhédrin, à l'intellectualisme abusif, à l'autoritarisme outré, même lui demander de contre-attaquer, pour faire sauter ou dynamiter spirituellement, le mot est important, certaines positions, attitudes, conceptions figées, durcies, nuisibles à tout véritable renouveau. Dans certains cas, en effet, le Seigneur aimerait bien agir et remettre l'unité, éclairer son Église, mais il faut d'abord nettoyer, voire même démolir avant de reconstruire, excaver davantage, etc. Il faut donc s'attendre, parfois, à voir un prophète, s'en prendre aux petits casiers, même canoniques, tout faits d'avance et dans lesquels on tente bêtement de tout entrer. Je me souviens ici fort bien au Québec, ces années qui ont été une croix pour Mgr Joseph Charbonneau, cet archevêque de Montréal qui m'a ordonné, ce conflit qui a duré au moins 2 décennies entre les canonistes et les hommes d'action sociale, entre les évêques de formation canonique et les évêques de formation sociale, qui se dénonçaient les uns les autres, qui jouaient une véritable partie d'échec. Attitude aussi peut être demandée au prophète, attitude de libérateur insatiable, d'ouvre-boîte et d'ouvre-pot, d'anti-mise en conserve prématurée, etc., etc. Le prophétisme spirituel joue donc un double rôle en pratique. Au nom du Seigneur, il vient remettre en évidence du déjà su, mais peu à peu oublié. Et c'est le style des interpellations fraternelles. Il vient également distribuer du vin nouveau du Seigneur, soit en communiquant du tout nouveau vin, soit en offrant une explication ou une explicitation ou une nouvelle formulation ou présentation en partant d'éléments déjà connus. Voilà, mes chers amis, cette 4e partie terminée. Je vois que le temps file et j'aurai abondamment de sujets à aborder. J'aurais en particulier aimé vous parler beaucoup des ennemis, des obstacles principaux à cette relance du prophétisme tant désiré, des obstacles concrets et courants qu'on dresse aux prophètes, du sort qui les attend, ces chers prophètes, parler du cas des faux prophètes. Si vous voulez, au pas de course, je vais juste dire quelques mots sur 3 thèmes que j'aimerais aborder avant de quitter. Comment discerner un prophète ou le prophétisme? Mais sur ce point, j'avais au moins 30 pages que je voulais entrer détailler davantage parce que c'est un point important. Mais j'y reviendrai dans un autre enseignement plus tard. Mais chose certaine, je voudrais dire au moins ceci. Il y a des conditions élémentaires pour être capable de discerner le prophétisme et les prophètes. Ce cher Lapalisse dirait que la première condition, c'est d'y croire aux prophètes et au prophétisme. Donc, croire que c'est une chose possible, que c'est une chose qui non seulement a existé, mais existe encore, et j'ajoute, plus que jamais. Deuxième condition, pour bien discerner, il faut savoir de quoi il s'agit. Et plus encore, de qui il s'agit. Savoir que ça ne part pas le prophétisme spirituel de nos schémas intellectuels, de notre modus procedendi habituel, mais que ça vient d'en haut, à sa guise, à son rythme, à sa manière, selon ses priorités, ses critères. C'est là le point le plus important. Et enfin, une autre condition préalable, c'est de prendre les moyens d'être et de demeurer à l'écoute de ce que j'appelle toujours le bureau-chef d'en haut. Car le discernement en la matière dépasse nos caboches, nos aptitudes naturelles, nos notions intellectuelles. L'aptitude au discernement en la matière ne peut venir et être confirmée que par lui, le Seigneur. Nos méthodes et critères humains d'évaluation sont vite déroutés. Maintenant, encore en capsule, je m'excuse d'aller vite. Comment peut-on déceler si celui qui est là est prophète ou non? Pour bien évaluer un prophète, mes chers amis, à mon point de vue, il faut l'évaluer à trois niveaux. Dans ses racines, dans ses fruits et dans la sève qui passe des racines aux fruits. Dans ses racines, la première chose à vérifier, où s'enracine-t-il cette personne qui se dit ou se veut ou s'exprime comme prophète? En quoi ou en qui plonge-t-il ses racines? Est-ce vraiment dans le Seigneur? Par une vie de prière, d'écoute, de fidélité? Si oui, j'ai tout lieu de croire que les fruits qui s'en suivront seront bons et le confirmeront. Deuxième critère d'évaluation, ces fruits. Sont-ils bons? S'agit-il de fruits spirituels pour la gloire de Dieu, le progrès de l'Église, la sanctification des âmes? Il est vrai que parfois les fruits se font attendre, mais Jésus l'a dit, un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne donne pas de bons fruits. Et troisième moyen, et j'invente ici l'expression, il faut faire, si on en a l'occasion, une ponction de sève, c'est-à-dire à l'occasion de contacts, de partage fraternel, d'enseignement, de prière, où on aura l'occasion de fréquenter la personne en question, on sera à même de faire un ou des prélèvements de la sève dont il se nourrit. Et avec ça, on pourra voir à quel messager on a affaire. Et si le messager est bon dans ses racines, ses fruits et sa sève, nul doute à avoir face au message. Je voudrais également, rapidement encore, donner quelques conseils d'amis à mes frères et sœurs qui sont des prophètes à leurs premières armes, ou qui le sont. Et ici encore, j'en ferai l'objet d'un enseignement plus complet. Mais je voudrais leur dire, avant de vous quitter, encore une fois, identifiez-vous. Je reviens sur un point que j'ai développé cet avant-midi. On n'hésite pas en Église de dire c'est un évêque, c'est un pasteur, c'est un enseignant, c'est un évangélisateur. On doit être capable de dire en Église c'est un prophète. Dans le cas des quatre premiers, ils reçoivent une lettre de nomination qui est publiée. On leur confère le titre, la fonction, le mandat. Mais vous le savez comme moi, ce n'est qu'après un certain temps, après discernement et à l'expérience, qu'on pourra dire si c'est un vrai pasteur, un vrai chef spirituel, un vrai docteur ou un vrai évangélisateur. Il aura beau avoir le titre, la lettre de nomination et la fonction, il pourra être déprécié par le peuple de Dieu. Eh bien, c'est la même chose pour le prophète, mais lui ne reçoit pas de lettre de nomination de l'évêché ou de la maison généraliste de sa communauté. Alors, comment peut-il s'identifier? Il est le seul à avoir entendu, discerné et prié l'appel du Seigneur. Eh bien, je dis ceci, chers frères, chères sœurs, à moins que le Seigneur ne vous l'interdise spécifiquement, n'hésitez pas à partager en Église le plus tôt possible, à vos risques et dépens, en toute simplicité et humilité, sans aucun complexe de supériorité ou d'infériorité, que vous êtes appelé à être prophète. La transparence et l'honnêteté l'exigent, car alors la communauté vous observera et pourra beaucoup mieux, comme elle doit, vous discerner. si j'avais à réunir dans un quatuor de suggestions ce qui est important pour ceux qui font leurs premières armes dans le prophétisme, j'irais prendre à même l'expérience du vécu d'Ézéchiel les 4 conseils à vous donner. Mon premier conseil, faites vôtre d'abord le message avant de le proclamer. Il faut vraiment s'en nourrir soi-même au point de ne plus faire qu'un avec lui. Et le Seigneur avait imposé ça à Ézéchiel. Fils d'homme, mange ce rouleau. Ensuite, tu iras parler à la maison d'Israël. Fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Donc, identification du message et du messager. Deuxième conseil, dites exactement ce que le Seigneur veut dire. Rien de plus, ni rien de moins. Peu importe les réactions qui vont suivre. Le Seigneur dit d'ailleurs à Ézéchiel, tu leur parleras. Qu'ils t'écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Troisième conseil, avoir toute audace et sécurité. Et le Seigneur dit à Ézéchiel, vois, je rends ton visage aussi dur que leur visage, et ton front aussi dur que leur front. Je rends ton front dur comme le diamant, plus dur que le caillou. Tu ne les craindras pas, et tu ne t'effraieras pas devant eux, car ils sont une engeance de rebelles. Et enfin, quatrième conseil, si tu fais le message et l'avertis, il rappelle ça à Ézéchiel, tu auras la vie sauve. Mais si tu ne le fais pas et n'avertis pas celui que je t'ai désigné, à toi je demanderai compte de son sang et de son péché. Chers frères et sœurs, appelés au prophétisme, n'hésitez pas à accomplir cette mission avec autorité, avec foi, en acceptant ses caractéristiques parfois joyeuses, souvent douloureuses, mais face à l'éternité, glorieuse. Avant de conclure, mes chers amis, j'aimerais vous dire quelques mots de la nature prophétique des fondations et notre modeste contribution expérimentale à la revalorisation du prophétisme en Église. Les fondations, je l'ai déjà indiqué, ne se classent dans nos petits casiers canoniques traditionnels. Elles gardent quand même toute leur raison d'être et d'agir en notre, son Église post-conciliaire. Elles ont comme caractéristique essentielle d'être éminemment prophétiques de par la volonté même du Seigneur qui les a inspirées, comblées et guidées au jour le jour jusqu'ici. À la vérité, ce caractère prophétique est apparu en elles dès leur conception et mise au monde. Le Seigneur leur a réservé dès le point de départ une multitude de confirmations hors de l'ordinaire. Par une plongée dans la foi, un peu, beaucoup, folle humainement, les fondations ont décidé de se consacrer principalement à chercher patiemment dans la prière et l'écoute assidue, directement auprès du Seigneur, au Saint-Sacrement, sa réponse bien à lui à cette question que vous connaissez déjà, qu'est-ce qui manque ou nous manque en Église d'aujourd'hui? Mes chers amis, j'aimerais vous récapituler, et ça prendra l'allure peut-être d'une litanie, les objectifs concrets que nous essayons de poursuivre en Église aujourd'hui. Nous voulons donner un exemple aussi modèle que possible en Église concernant l'exercice du prophétisme spirituel. Au début, on le sait, on devra accepter d'être incompris, impopulaire, rejeté, censuré, condamné même. Mais chaque geste et chaque parole que nous posons, et nous y tenons mordicus, cherche à être conforme au vouloir et au jugement du Seigneur. Nous voulons en même temps, d'une pierre deux coups, réhabiliter et redonner confiance à cette multitude de prophètes qui attendent, n'osent pas, ou ont déjà été combattus, écrasés ou exilés. Et d'une pierre trois coups, nous voulons aussi revaloriser l'accueil et l'apport indispensable du véritable prophétisme spirituel en Église, tel qu'il est ardemment voulu et inspiré depuis toujours par le Seigneur. Et enfin, d'une pierre quatre coups, si possible, avec sa grâce, à la longue, faire mentir ce commentaire de Jésus à l'effet qu'un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, dans sa parenté et dans sa maison. Jésus ne l'a pas dit comme un idéal, il l'a dit comme un reproche. Et, avec sa grâce, il serait sûrement heureux que son Église, un jour, puisse accueillir avec joie ses prophètes. Quelle a été jusqu'ici notre contribution à cet effort de revalorisation du prophétisme? Eh bien, voici quelques exemples concrets. Nous avons, depuis le début, inlassablement voulu et déclaré publiquement notre collaboration désirée avec les successeurs des apôtres. Ça a pris la forme d'une lettre ouverte aux évêques en 1984 et à chaque occasion qu'il a été possible de réitérer cette offre de collaboration. On a fait en sorte que le prophète baigne dans du vrai de vrai communautaire. On essaie de procéder selon une mission longuement mûrie, priée, discernée, rien d'improvisé. Une mission très disciplinée, transparente à 100%, car toutes les cartes sont mises sur la table. Il n'y a aucun jeu de coulisses, aucune menace, aucun mystère. Tous ont accès aux enseignements, aux interpellations. Nous entretenons une disponibilité continue envers tout vrai dialogue dans la charité, la vérité, la liberté spirituelle. Et d'avance, je vous le dis, au fond de mon cœur, il y a un pardon global et inconditionnel envers tous ceux et celles qui présentement nous diffament, ne nous comprennent pas et nous vendent, selon l'expression de Joseph vendu par ses frères. Et j'aurais le goût d'emprunter à ce même Joseph cet extrait, cette déclaration, quand il a retrouvé ses frères, il leur a dit ceci: « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Mais maintenant, ne soyez pas chagrins et ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici. » Car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et je vous dis que je ne garde aucune rancune, mon pardon est inconditionnel et irréversible, total, envers tous ceux qui, pour le moment, ne saisissent pas encore l'importance et la nature de cette mission. Mais je n'ai pas le choix, et je dis souvent en boutade que je me trouve dans un dilemme original. Si je ne poursuis pas cette mission prophétique et celle des fondations, je vais en mourir. Par ailleurs, si je la poursuis, je vais me faire tuer. Mes chers amis, le moment est venu. Il ne reste que quelques minutes pour tirer les conclusions de ce premier enseignement, je dis bien, sur le prophétisme. Le Seigneur a prévu trois moyens pour tenir son Église, son peuple en marche, vraiment en haleine ou en alerte. Il a prévu les inspirations de l'Esprit-Saint, qui sont offertes à chacun chacune, à tous ceux du moins qui les désirent et les accueillent. Il a prévu les dons privilégiés et les charismes, bien entendu les dons reçus par les sacrements de baptême et de confirmation, mais en outre des dons diversifiés, des charismes variés, dont on parle dans Saint Paul et dans les textes de Vatican II. Mais il a prévu également le prophétisme spirituel, l'influx prophétique. Dieu, par Moïse, voudrait bien entendu que tout son peuple en soit un de prophètes. Il y tend. Pourra-t-il y arriver? Encore faut-il qu'on commence par accueillir ces prophètes. Or, si ces trois moyens mis à notre portée et 100% disponibles étaient en opération à la grandeur de l'Église, non seulement le peuple de Dieu serait en marche, mais il irait au pas de course, au galop même. Malheureusement, dans bien de nos milieux en Église, ces trois grands moyens ne sont estimés qu'en principe. En pratique, on en parle peu. On n'y recourt que très très peu, ou pas. Et d'ailleurs, je vous pose vous-même la question. Avez-vous, dans votre vie, beaucoup de souvenirs à citer ou d'exemples à donner où vous avez été personnellement initié, sérieusement, formé, guidé avec soin concernant l'accueil et le discernement de vos inspirations de l'Esprit-Saint, de vos dons et charismes probables, du prophétisme spirituel qui jaillit soit en vous ou autour de vous? Certains ont eu l'occasion de passer par des groupements de renouveau charismatique, entre autres. Pour plusieurs, c'était la première et la seule fois qu'ils ont entendu parler des dons et des charismes. Et cette initiation, malgré ses indéniables mérites, n'a pas toujours été la meilleure, n'a pas toujours été complète, ni assez patiente ou ouverte à l'ensemble de l'Église. Règle générale, nos fidèles, y compris les prêtres, religieux, religieuses et évêques, sont pas ou peu initiés à ces trois points de vue. Et peu nombreux sont ceux et celles en Église qui peuvent se vanter de savoir maîtriser passablement bien ces trois sources énergétiques spirituelles offertes sans relâche, en surabondance par l'Esprit, à savoir les inspirations de l'Esprit-Saint, les dons et charismes, le prophétisme spirituel. On a été, hélas, bien plus souvent mis en garde, invité à se méfier pour ne pas s'illusionner, qu'on a été vraiment instruit, formé, entraîné, encouragé à y croire et à y recourir. Il y a beaucoup plus d'avocats du diable en ces domaines que d'avocats de la défense, des intérêts de l'Esprit et de l'Église, par voie de conséquence. Sans cette constante infusion et effusion de l'Esprit par ces trois moyens, croyez-moi, il ne faut pas un charisme spécial pour le prévoir, l'Église demeure et demeurera anémique sans son indispensable nouveau renouveau spirituel continu. Le style actuel en Église, que j'ai pris le temps de dénoncer dans les récentes interpellations « Essor ou déclin de l'Église », le style actuel où l'on a tendance, comme on le sait, à tout prendre en main, à contrôler, à structurer, à aller à la course, à mettre en conserve, à tout préciser jusque dans les détails. Et il va sans dire, de par sa nature même, ce style est, face au vrai prophétisme, au bas mot inhibant, plutôt inhospitalier, et dans un grand nombre de cas, annihilant à toute fin de pratique. Il détruit, anéantit, brise l'élan prophétique chez son titulaire. Au contraire, si ces trois moyens, inspiration, dons et charismes et prophétisme spirituel prévus par le Seigneur, jouaient pleinement leur rôle, l'Église serait en constant aggiornamento, en plein essor, véritablement à l'heure du Seigneur et entre ses mains. Le Seigneur a prévu dans son plan en quantité et en qualité des prophètes aptes, non seulement à surclasser les faux prophètes, mais à garder le peuple de Dieu en marche au pas de course. Je vous le dis encore une fois, je rêve toujours de ce premier évêque qui va prendre le prophétisme spirituel bien au sérieux et battre la marche en une véritable expérience pilote, résolument, à ses risques et dépens, sûrement, sans prévoir de structure et en favorisant la culture. Mes amis, je suis prêt à donner ma vie personnellement pour que ressuscite le vrai prophétisme spirituel en Église. Je vais tout tenter pour qu'enfin on essaie de comprendre, d'accueillir, de favoriser, de rechercher, d'apprécier, d'accompagner le prophétisme et les prophètes vrais en Église. Il est encore possible, je le crois sincèrement, de trouver parmi les dirigeants et les fidèles en Église des hommes et des femmes matures, sécures, qui sont spirituellement aptes à cette héroïque et exemplaire mission. Dieu donne à son peuple les grâces nécessaires à cette compréhension, à cet accueil et à ce discernement. Cela demande, par-dessus tout, beaucoup d'humilité et de simplicité surnaturelle, et en outre, des connaissances et une formation ad hoc. L'ignorance, la peur ou la suffisance que l'on connaît actuellement face au prophétisme et aux prophètes sont, à la vérité, à 99% responsables des réactions négatives courantes. En terminant, je le redis, le couple apôtres et prophètes devraient œuvrer ensemble, devraient se réconcilier normalement. Si, pour les deux, le Christ Jésus est vraiment la pierre d'angle de la communauté, comme dit saint Paul, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Ce texte suggère donc clairement que les successeurs des apôtres et les successeurs des prophètes devraient travailler ensemble harmonieusement. Personnellement, je le désire et je n'ai cessé de l'offrir aux évêques. De leur côté, chez bon nombre, c'est encore une faim de non-recevoir et une peur. Je ne lâcherai pas. Je patienterai. ça finira par venir. Je veux procéder méthodiquement, sereinement, chrétiennement, positivement. Ayons confiance, et mes frères et sœurs, je vous demande, avec moi, portons dans la prière ce défi. Et je terminerai en relisant avec vous Éphésiens 4, 9, 16. Et les dons qu'il a faits aux hommes, ce sont d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Si le prophétisme ne fait pas partie de l'orchestre, toute la symphonie ecclésiale sonne et sonnera faux. Mes chers amis, encore une fois, que l'amour, la joie et la paix du cœur